Bonsoir. Merci de m'accueillir. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, je me présente. Frédéric n'a rien dit, alors je me présente. Philippe Gabillet, professeur d'optimisme, docteur S. Bonheur, expert en coups de chance auprès du tribunal de la vie réussie. Bon, formidable comme boulot. Je vais vous donner un secret de fabrication. Les gens adorent les gens heureux. Messieurs, les femmes adorent les hommes heureux. Mesdames, les hommes adorent les femmes heureuses. Les clients adorent les vendeurs heureux. Les banquiers, d'une façon générale, adorent les entrepreneurs heureux. Hein ? Or, bien évidemment, les hommes politiques adorent les électeurs heureux. Oui, on ne peut pas non plus gagner à tous les coups. Voyez, c'est étonnant de voir comme la vie, des fois, nous joue des tours. Elle nous tend des perches, on les saisit ou on ne la saisit pas. Je voudrais vous raconter une petite histoire qui est très, très ancienne. Ça a quasiment 200 ans. Pas jour pour jour, mais c'est très vieux. Mais c'est absolument authentique. Le 14 avril 1814, ça se passe dans un hôtel particulier à Paris. Et il y a un type qui, à l'époque, est un ministre très connu. Il vient d'être recruté par Louis XVIII, qui vient de revenir au pouvoir. Il s'appelle Talleyrand. Et il y a un gars qui vient lui demander une nomination. Le type, c'est la chance de sa vie. L'opportunité de folie, quoi. Le gars, il a grenouillé dans tous les ministères pendant des semaines, pour obtenir cette nomination. Et il vient enfin chez le prince de Talleyrand, qui est le ministre qui va lui remettre sa nomination. Et cette scène est authentique, puisqu'elle nous est racontée d'ailleurs par la dame qu'on voit représenter. Ça, c'est une scène extraite du film qu'en avait fait Sacha Guitry en 1947, qui s'appelle « Le diable boiteux ». Et ce monsieur s'appelait le marquis de la Tour de Bournac. On a oublié le type, mais on a gardé son nom. Et il se présente devant Talleyrand, qui lui dit « Monsieur, j'ai l'honneur de vous annoncer que sur avis favorable du roi, je vous nomme attaché d'ambassade à Madrid. » Alors le type, bien évidemment, se confond en remerciements, mais cette nomination comble tous mes désirs. Talleyrand lui dit « Monsieur, j'en suis enchanté pour vous et les vôtres. Vous pouvez me faire confiance, le royaume peut me faire confiance, la France peut me faire confiance, il n'y a pas de problème. » Et Talleyrand est en train de signer la nomination du monsieur. La scène nous est racontée par la dame, d'ailleurs, qui était là, qui était Madame d'Evremont, qui était, entre autres, la secrétaire particulière de Talleyrand. Et alors que Talleyrand est en train de paraffer le document, le type, au lieu de se taire, il continue à parler. Il dit « Mais vous pouvez avoir confiance en moi, je ne vous décevrai pas. » Et Talleyrand lui dit « Mais écoutez, j'espère bien, parce que franchement, bon. » Puis il continue à signer. Et le type, à la fin, ne s'arrêtant pas de parler, lui dit « D'autant plus que maintenant, je peux bien vous l'avouer, je n'ai jamais jusqu'ici eu de chance dans la vie. » Ah, alors là, Talleyrand lui dit « Monsieur, là, si vous n'avez jamais eu de chance, ça change tout. Rien n'est fait entre nous, monsieur. Comprenez bien que je ne peux pas me permettre, ni pour moi ni pour la France, de confier un poste de cette importance à un monsieur qui n'a pas de chance. » Et il déchire la nomination devant le type. Et il le congédie sur un mot qui est resté célèbre. « Adieu, monsieur, je m'en voudrais de faire mentir votre infortune. » Voilà comment est-ce qu'on rate, voyez, la chance de sa vie. Et alors, dans le fond, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on réussit ou on échoue. Je pense que ça a dû arriver à un grand nombre d'entre vous ici. La rencontre que vous avez faite, par exemple, avec NL International, vous n'allez pas me dire que quand vous étiez tout petit, quand on vous dit « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?»« Oh, je vais m'éclater chez NL International !» Non. La plupart d'entre vous, dans le fond, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez eu de la chance. C'est-à-dire que vous avez peut-être rencontré quelqu'un que vous n'étiez pas censé rencontrer. D'ailleurs, ça serait assez intéressant de savoir ici ceux qui sont arrivés dans cette aventure NL International par le plus grand des hasards. En rencontrant quelqu'un chez des amis chez qui ils n'étaient pas censés venir ce soir-là. En croisant par hasard quelqu'un que, en d'autres temps, ils n'auraient même pas regardé. Mais là, il s'est passé quelque chose. Parce que voilà, entre la réussite et l'échec, parfois, il y a juste, voyez, un petit moment. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on va sortir du lot. Parce que c'est intéressant de sortir du lot. Sortir du lot, c'est pas uniquement réussir, avoir plein de pognon, etc. Ce qui est intéressant, c'est quand on sort du lot globalement, voyez. Par exemple, moi, des gens qui réussissent, qui ont plein de pognon, j'en connais des tas. Dans les entreprises, il y en a des tas. Mais alors, généralement, ceux qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de pognon, ils ont été mariés 2-3 fois, ils ont un ulcère, ils ont de la tension, etc. Bon. En revanche, quand on a des gens qui sont à la fois, ils ont bien réussi, quoi, puis ils sont heureux, puis ils sont en bonne santé, d'abord c'est agaçant, il faut bien admettre, c'est horripilant. Bon. Et on se dit, mais comment ils ont fait? Alors on vous dit, oh ben oui, comment ils ont fait? Alors ils ont travaillé, ils ont bossé. Puis à un moment donné, on vous dira toujours, oui, puis attends, et ça va, hein? Ils ont eu de la chance. Mais comment ça, ils ont eu de la chance? Mais oui, ils ont eu de la chance, allez. Ils ont trouvé le truc, quoi. Ils sont tombés sur le fer à cheval, le trèfle à quatre feuilles, la patte de lapin. Vous connaissez l'histoire le gosse qui dit à son père, « Papa, c'est vrai que ça porte chance, une patte de lapin ?» Et le père qui dit, « En tout cas, ça n'a pas porté chance au lapin. » Vous voyez, faut se méfier de ça. Ouais. Et puis, il y a ceux qui vous disent, « Non, mais attendez, il y en a aussi, ils ont les bonnes cartes. Ils sont grands, ils sont beaux. » Ils sont intelligents, ils ont de la conversation. Alors bien évidemment, réussir c'est facile. Moi, regardez-moi comment je suis. Je suis petit, je suis moche, pour peu que je sois chauve. Alors oui, mais enfin, si ce n'est que, attendez, on a tout un tas de gens ici, au départ, ils n'avaient pas les bonnes cartes. Combien il y en a ici parmi nous, vous direz, qui en fait, au départ, n'ont pas obligatoirement les bonnes cartes, peut-être pas le milieu social de folie, un physique d'Apollon. Bon, la plupart des messieurs, ça va à peu près. Les dames aussi. Mais chez NL International, exceptionnellement. Chez les autres, non, il y a des boudins. C'est évident. Bon. Alors, des fois, on vous dit, oui, mais alors, attendez, mais si on n'a pas les bonnes cartes, mais si on a... Non, on s'en fout des cartes. N'importe quel joueur de poker vous le dira. On n'est jamais devenu champion de poker avec des bonnes cartes. On est devenu champion de poker avec des cartes qu'on a et qu'on a su utiliser. Et puis, même si vous n'êtes pas un bon joueur de poker, on peut vous donner les meilleures cartes du monde, vous allez vous faire ramasser. C'est comme ça, parce que la vie est comme ça. Alors d'autres vont vous dire, oui mais, attendez, il y a aussi, il y a le destin quoi, il y a la route du destin. Ah ben oui, mais la route du destin, la question c'est de savoir jusqu'où elle va. Soit tout est écrit, tout est tracé, bon on s'arrête là, ou bien on considère qu'effectivement c'est toujours un petit peu tracé à court terme, mais dans le fond, au premier tournant là de la vie, il peut se passer des trucs, on peut rencontrer des gens qu'on n'était pas censé rencontrer, on peut avoir un accident qui va tout changer, dans le bon ou dans le mauvais sens d'ailleurs, hein. Et puis il y a ceux qui jouent, ceux qui disent, bon, on va tenter le coup quoi. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Vous me direz 100% des perdants aussi, d'ailleurs. Faut quand même, faut calmer le jeu, là aussi. Bon, mais c'est vrai que si on ne fait rien, je vous garantis qu'il ne se passe rien. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? J'ai un de mes collègues qui s'appelle Richard Wiseman, un des grands spécialistes mondiaux de la chance. Le type, il est prof à Londres. Il a mené une enquête il y a quelques années de ça. Il avait créé à Londres, c'était la première fois qu'on a fait ça dans le monde, il avait créé le laboratoire de la chance, le Luck Lab. Et à l'époque, l'université, le doyen de l'université lui avait dit, écoutez, vous voulez créer un laboratoire de la chance, moi je veux bien, mais amenez-moi des chanceux d'abord. Et le type, il ne s'est pas démonté, vous savez ce qu'il a fait à l'époque? C'est resté un cas unique dans l'histoire de la psychologie sociale. Le type, il a passé une annonce dans le Times, à la page des offres d'emploi. Recherchons chanceux. Madame, monsieur, vous avez de la chance, vous êtes sous une bonne étoile, vous réussissez tout ce que vous entreprenez, vous seriez prêt à en parler à un chercheur pendant 45 minutes, appelez-nous à tel numéro. Et 15 jours plus tard, ils font paraître une annonce libellée exactement en sens inverse. Recherchons personne malchanceuse. Madame, monsieur, vous avez la loose. Vous ratez quasiment tout ce que vous entreprenez. Vous êtes né sous une mauvaise étoile. Vous seriez prêt à en parler pendant trois quarts d'heure à un chercheur, sous-entendu sans fondre en larmes. Appelez-nous à tel numéro. Ils récupèrent à l'époque une petite centaine de gens, 50-50. Une cinquantaine de personnes qui croient qu'elles ont de la chance, et une cinquantaine de personnes qui croient qu'elles n'en ont pas. Et à l'époque, Wiseman et ses étudiants vont faire quelque chose d'incroyable, ils vont analyser la vie de ces gens, en leur faisant raconter leur vie, qu'est-ce qui leur est arrivé, tous les événements. Alors, vous voyez, tous les événements qu'on peut avoir dans une vie, en gros, pour vous donner un ordre d'idée, quand ils avaient quelqu'un en face d'eux, ils discutaient avec la personne pendant trois quarts d'heure à peu près, et en trois quarts d'heure, on arrivait à dégager la centaine, 100, 120, 130, ça dépendait de l'âge, mais les 100 et quelques événements, positifs ou négatifs, qui avaient structuré de la vie de ces personnes. Et puis à la fin, il disait, maintenant, madame, monsieur, on va reprendre tous ces événements l'un après l'autre, puis vous allez me dire si vous considérez que c'est plutôt des événements positifs, on va les mettre dans le bac positif, ou plutôt des événements négatifs, mais on va le mettre dans le bac négatif. Or, vous imaginez ce qui s'est passé. Les gens qui croyaient qu'ils avaient de la chance, il y avait une majorité colossale d'événements dans le bac positif, puis les gens qui pensaient qu'ils n'avaient pas de chance, il y avait énormément d'événements de vie dans le bac négatif. Le seul problème, c'est que quand on regardait la nature des événements qu'il y avait dans les deux bacs, à 85%, c'était les mêmes. C'est-à-dire que dans le fond, les gens avaient raconté ce qui leur était arrivé en donnant en fait une tonalité plus ou moins positive, plus ou moins négative. voyez, c'est Wiseman qui nous a dit ça, et ça c'est un truc qui est très important. Je crois que tous les gens qui sont dans cette salle ici, vous le savez parce que vous l'avez tous vécu, sans exception. La chance, c'est pas ce qui vous arrive. La chance, c'est ce que vous allez faire avec ce qui va vous arriver. Et c'est ça qui est fondamental, voyez. Moi, pendant longtemps, moi-même, hein, parce que j'étais plutôt... Moi j'ai toujours dit, j'ai eu de la chance, vous voyez. J'ai 55 ans maintenant, ben, je peux vous dire que pendant 50 ans, j'ai dit j'ai de la chance. Clairement. Et je l'ai toujours dit, j'ai jamais eu d'état d'âme avec ça, moi. Bon, des fois, on me disait, ben non, dis pas ça, ça porte malheur. Ben, j'attends encore, on verra bien. Seulement, il y a quelques années, j'ai commencé à bosser là-dessus, avec mes étudiants, de façon plus... Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai compris un truc. Je me trompais quand je disais ça. Je disais, j'ai de la chance, mais c'était une erreur. En fait, ce que j'aurais dû dire, c'est ça. Ouais, j'ai de la chance. Je faisais des choses, tout comme vous, vous faites des choses qui, comme par hasard, vont déclencher des trucs incroyables autour de vous. Parce que la chance, on sait très bien comment elle fonctionne aujourd'hui. Vous savez, c'est Gilbert Trigano. Gilbert Trigano, ça a été l'un des grands dirigeants du club Méditerranée pendant des années et des années. C'est aussi un grand philosophe. Je me permets d'ailleurs de partager avec vous cette phrase mémorable de Gilbert Trigano, patron du club Méditerranée dans les années 80. Un coup de chance ne fait pas un chanceux, pas plus qu'un coup de soleil ne fait un bronzé. C'est important quand même, je vous laisse réfléchir à ça quand même, hein. c'est pas neutre. Ça veut dire qu'en fait, vous voyez, ce qui compte dans la vie, c'est la chance qui se répète. Gagner une fois dans sa vie au loto, ben, quand ça arrive, c'est formidable, mais honnêtement, on ne peut rien en dire. En revanche, devenir un homme ou une femme qui, dans sa vie de tous les jours, rencontre des gens intéressants, plus que la moyenne, quand il a besoin d'un contact, tout d'un coup le contact arrive. Quand il s'intéresse à quelque chose, des informations commencent à arriver sur ce à quoi il s'intéresse. Alors là, ça devient intéressant. Les petites chances du quotidien, mises bout à bout. Alors bien sûr, là-dedans, il y a tout. Il y a des pépins, il y a des pépites. On a tous ici fait des rencontres incroyables, par hasard. Ça a été des coups de chance. Des fois, on a fait des rencontres pourries aussi. Hein. Eh oui, par hasard aussi, on s'en serait bien passé. Mais voilà, on a eu des infos des fois qui nous ont aidés. Des fois, on a cherché, on n'a rien trouvé. On a glissé sur des pots de banane, on a... Enfin voilà, la vie est faite de tous ces éléments-là. Simplement, ceux d'entre nous qui avons de la chance, comme on dit, c'est ceux qui ont réussi en permanence, voyez, à transformer ça en événements favorables. Alors comment ils font ? Ben, vous savez, je crois que vous les connaissez, parce que les secrets de la chance, vous les connaissez. D'abord, premièrement, pour avoir de la chance, il faut déjà lui donner une direction. C'est aussi bête que ça. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'étais dans une entreprise, et puis le patron présente un nouveau produit. Assez innovant. Alors tout le monde s'enthousiasme, puis il y avait un gars dans le comité de direction qui était là, le vieux briscard, vous savez, le type à qui on l'a fait pas, qui a tout vu, tout ça, qui dit « Oh, ben enfin, tout ça, ces innovations, ces machins, ces trucs, là, bon, tu parles. C'est pas avec ça qu'on va réussir, hein. Pour réussir, il faut de la chance. J'en sais quelque chose, j'en ai jamais eu. » Et il se tourne vers le patron et dit « Ben enfin, tu peux le dire, quoi, on se connaît depuis longtemps, tu peux le dire. Moi, reconnais que j'ai jamais eu de peau. » Et à ce moment-là, il y a le président qui commence à être un peu agacé, qui dit « Oui, effectivement, t'as raison. En ce qui te concerne, c'est vrai, t'as jamais eu de chance. De notre côté, même si t'en avais eu, qu'est-ce que t'en aurais fait ?» Et voilà, il y a des gens, de toute façon, ils ne sauront pas quoi en faire. Vous savez quoi en faire. Pourquoi ? Parce que dès l'instant où on a un rêve, un objectif, une envie, un désir, dès l'instant où il y a une étoile quelque part, instantanément, les choses commencent à apparaître. C'est un médecin, un philosophe indien qui s'appelle Deepak Chopra qui dit « L'intention organise sa propre réalisation. » Parce que notre cerveau est fait comme ça. Alors bien évidemment, ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. Si vous êtes intimement persuadé que vous avez la loose, que les autres vous en veulent et que le monde est contre vous, ça marche aussi. Voilà. Seulement, il ne s'agit pas uniquement de programmer. Il faut aussi être prêt. Vous savez, c'est Coluche qui disait « Chaque fois qu'un artiste te dira qu'il n'a pas eu de chance, demande-lui le nombre de fois où la chance est venue frapper à sa porte et où il n'était pas là. » Eh ouais, parce que vous avez des gens, en fait, la chance frappe à leur porte, mais ils ne sont pas là. Ben vous me dites « Attendez, ils sont où ?»« Oh, ben, ils ont autre chose à faire, ils sont sur leur ordinateur, des jeux vidéo, ils regardent un feuilleton débile à la télé, ils avaient du boulot ce jour-là, ils ont piscine. » Parce que je vous dis, ils ne sont pas là. Voilà. Mais voilà, la chance, c'est la personne qu'on rencontre Si on était un tant soit peu disponible, on irait vers cette personne, on lui parlerait, mais ce jour-là, on est ailleurs, on est autre chose, il y a l'agenda, il y a le machin. Voilà, la chance vient de passer, elle a tapé à la porte, on n'a pas entendu, on continue. Je vais vous dire, franchement, la pire des malchances dans une vie humaine, c'est la chance qu'on a laissée passer. Et ça, je dirais, on est à peu près tous d'accord là-dessus. Ensuite, il y a un troisième secret, et ça, vous, vous en êtes ici. Moi, je suis fasciné par ce que j'entends depuis ce début d'après-midi. Parce que vous, vous incarnez ça d'une façon qui est incroyable. Les chanceux sont des gens, ils font circuler la chance. C'est-à-dire qu'ils font circuler les opportunités. Ils savent très bien que ce qui est à la base de leur réussite, c'est quand on a une information, on la fait passer à quelqu'un. Vous êtes parfaitement à la base de ce principe qui dit que vous prenez deux êtres humains. Chacun de ces êtres humains a un euro. Ils échangent un euro. Chacun repart avec un euro. Vous avez chacun une idée, vous échangez votre idée, chacun repart avec deux idées. Dès l'instant où on travaille sur de l'immatériel, sur du sentiment, sur de la connaissance, on ne peut que s'enrichir par l'échange avec l'autre. Faire circuler les opportunités, c'est ce principe. Pierre Doré, c'était le fondateur historique qui nous a quittés cet été de l'Institut européen du leadership. C'était un monsieur formidable qui est parti, il avait 95 ans, et qui disait « La meilleure façon pour atteindre vos objectifs dans la vie, c'est d'aider ceux dont vous avez besoin à atteindre les leurs ». C'est simple quand même comme principe. Mais ça veut dire aussi que la chance, avant de chercher à en avoir, il faudrait peut-être chercher à en être une. Et la question clé, c'est si pour attirer les opportunités, on commençait par en devenir une. Pourquoi est-ce que dans le fond, les gens qui ne vous connaissent pas encore et qui vont faire votre connaissance la semaine prochaine pour la première fois, pourquoi ça va être leur jour de chance? Dès l'instant où vous êtes capable de répondre à cette question-là, ça y est, ça ne veut pas dire que tout est gagné. Ça veut dire que vous êtes effectivement sur la bonne voie. Et enfin, parfois ça ne marche pas, vous voyez. Il y a des revers dans la vie, on se plante, on rate, on est confronté au non. J'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas, revenez plus tard, la porte est là. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait partie de la vie, ça. Face aux difficultés, ça ne sert à rien de sautiller en disant, bah, tiens, je vais positiver et tout. Bah, des fois, positiver, ce n'est pas évident. Hein. Bon. En revanche, on peut toujours optimiser. Ça, c'est le secret, vous voyez. Moi, je crois beaucoup à ça. Le secret de l'optimisme. Bon, il y a quelques temps, 2-3 ans de ça, j'étais dans mon bureau, mon téléphone qui sonne. Type qui m'appelle, au bout du fil, très sympa. Il me dit « Bonjour monsieur, je vous appelle de Bruxelles, je suis avocat, je suis belge, pourquoi pas. Je suis le président fondateur de la Ligue des optimistes du Royaume de Belgique. » Ah ben mon colon. « Je suis aussi le fondateur d'un think tank international qui s'intitule Optimistes sans frontières. » Un peu mon neveu, et jusqu'aux prochaines élections, authentique. Hein, je suis le président de la République d'Optimistan, qui est un État que j'ai créé avec quelques amis, dont sont citoyens de droit l'ensemble des optimistes du monde, et qui est un État tout à fait particulier, puisque c'est avant tout un État de conscience. Là, je dis, mon pote, t'as touché le gros lot. Et le gars, je dis, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il me dit, ben voilà, je voudrais qu'on crée la Ligue des optimistes de France. Ouh, alors là, vous attaquez un sacré truc quand même. Hein. Comme disait l'autre, c'est pas qu'on soit pessimiste en France, mais on cache notre joie. Ouais. C'était Michel, le grand Michel Audiard qui avait eu cette phrase formidable qui disait, en France, si les pessimistes volaient, il ferait nuit. Voilà. Alors j'ai dit, bah écoutez, on va créer la Ligue des optimistes de France, quoi, voilà. Et donc on a créé, je vous le signale d'ailleurs, hein, d'ailleurs tout le monde ici, en plus c'est gratuit, hein, donc devenez membre sympathisant de la Ligue des optimistes de France. C'est très simple, vous allez sur internet, ligue-des-optimistes.fr, pof, vous mettez votre truc, et vous êtes identifié immédiatement comme optimiste friendly, et vous recevrez la lettre optimiste qu'on pond toutes les semaines avec chaque fois des histoires rigolotes, des contes inspirants et tout ça. Vous recevrez tout ça. C'est gratuit, vous pouvez y aller, cadeau. Voilà. Vous me direz, attendez. Moi, des gens, ils me disent, attendez, vous êtes gentils, votre histoire d'optimisme, enfin quand même, les optimistes, on les connaît quand même, hein, dans le monde dans lequel on vit, vous rigolez. L'optimiste, il est gentil, mais il se la pète. Il se prend pour qui? Non, mais je rêve. Je dis, écoutez, oui, mais enfin, on peut quand même avoir une bonne image de soi. Non, mais attendez, bon. Puis encore, là, ça va parce qu'il est tout seul. Mais quand il n'est pas tout seul. Ouais, mais même ça. Attendez, vous avez tous ici l'expérience de la relation humaine. Moi, je vais vous dire un truc. Le gros, là, qui, de façon, manifestement, n'est pas un client NL international. Hein. Le gros, là, il a un doute. Il se dit, c'est pas possible, il y a un coup fourré. Il y a des gros planqués derrière. Il y a un truc qui colle pas. Alors, attendez, j'admets qu'il y a des fois, dans des situations de la vie, des gens qui sont trop optimistes. Bon. Non, mais ça, c'est vrai. Il faut prendre des précautions. Il y en a aussi, des fois, ils se rendent pas compte de ce qu'ils font, vous voyez. Ils vous disent, ah oui, moi, je suis optimiste. Enfin, non. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui, j'ai pas de peau. Je dis, attendez, mais quand même. Voyez. Puis alors, comme on est en temps de crise, il y a ceux qui vous disent, mais moi, je suis optimiste, j'ai pris mes précautions. Vous avez pris vos précautions? Ouais. On a envie d'être fait de gaffe quand même, parce que bon. Puis il y a ceux qui vous disent, non, moi, j'ai pas intention de me faire bouffer. Je vais pas me faire bouffer par la crise, par la mondialisation, par rien. Et puis vous avez alors, moi c'est ce que je préfère, la grande classe, vous voyez. L'optimiste façon NL international. Rien à foutre du reste. On y va. Et comme disait l'autre, que ça sorte pas d'ici, fuck la concurrence. Voilà. Non mais sans blague. On s'en dit, il faut faire gaffe quand même, faut pas qu'il y en ait un qui éternue quand même, là, parce que c'est un peu... Tout ça pour vous dire, vous voyez, que c'est vrai, les gens vous disent, vous savez, mais alors les optimistes, vous êtes sympas, mais vous voyez, vous regardez quand même un peu le monde avec des lunettes un petit peu roses, bonbons. Il y a des... Les nuées s'amoncellent, là. C'est... Et oui, alors on fait quoi? Je dis, non mais attendez, le problème n'est pas là. C'est pas avoir des lunettes roses sur le nez, être optimiste. Pas du tout. C'est mon copain Eric Emmanuel Schmitt qui dit très bien, il dit, vous savez, c'est dommage que l'optimisme soit si souvent confondu avec sa caricature. Si on voulait trouver une image qui exprime, alors là c'est le psy qui vous parle, hein. Ce que c'est l'optimisme, c'est ça l'optimisme. L'optimisme, c'est de dire, les mondes dans lesquels on vit ne sont pas toujours géniaux. Bien sûr, il y a des difficultés. Des fois, il y a des crises, quoi, il y a des tensions. Il y a des choses qui ne vont pas dans ce monde. Mais l'optimiste, c'est quelqu'un qui vous dit, même si les choses ne vont pas, même si on est parfois dans des environnements difficiles, toxiques, compliqués, moi je vous fais un pari. Le pari que je fais en tant qu'optimiste, mais c'est un pari pas uniquement au niveau de la situation qui est là, c'est un pari que je vous fais au niveau de ma vie. C'est pour mes enfants aussi que je fais ça, c'est pour mes collaborateurs quand j'en ai, pour mon conjoint, mon épouse, pour mes amis. Je fais le pari que quand on fait ce qu'il faut, la vie peut toujours retrouver son chemin. Mais je vous dis la vie comme je vous dirais la croissance. Comme je vous dirais, la guérison, quand on est parfois dans des milieux hospitaliers, avec des gens malades, etc. L'idée est de se dire, voilà, la vie, c'est surpuissant, quoi. Toute l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de la créativité qui a sauvé le monde, jusqu'à présent. Il faut reconnaître. Ça veut dire donc qu'un optimiste, c'est quelqu'un qui, face aux difficultés du monde, il les connaît, face aux incertitudes du monde, il les connaît aussi, eh bien, l'optimiste, il vous dit, bien que ce soit comme ça, voilà, moi... Je vais essayer d'aborder ça de la façon la plus positive et la plus active possible. Alors, il y en a, bien sûr, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. Là, dans la salle, il y en a probablement des optimistes purs et durs. Il y en a probablement. Puis, il y en a d'autres ici, ils ne sont pas comme ça. Ils ont tendance à voir un peu ce qui ne va pas et tout. Mais ce n'est pas grave. L'optimisme, c'est un petit peu comme un régime, vous voyez, ou comme faire du sport. On n'est peut-être pas obligatoirement fait pour ça au départ. Puis, à un moment donné, on prend une décision dans sa vie. Tout comme un jour, on décide de s'alimenter différemment. On décide de prendre une journée par semaine ou un peu plus pour faire de l'activité physique, etc. Il y a des décisions qu'on prend, même si au départ, on n'était pas exactement fait pour ça. Par ailleurs, l'optimiste, lui, pourquoi est-ce qu'il crée de l'énergie autour de lui ou autour d'elle? Un optimiste, c'est quelqu'un qui va percevoir en priorité ce qui va bien dans le monde. Alors, attendez, en priorité, ça ne veut pas dire uniquement, parce que tout ne va pas bien. Mais tant qu'à regarder le monde, autant le regarder sous un angle qui donne envie de continuer, vous voyez, à vivre dans ce monde-là. Parce que l'intérêt du verre, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au verre à moitié plein? Mais je vais vous dire, parce que la partie la plus intéressante du verre, c'est quand même celle qui est pleine, quoi. Enfin, je sais pas, c'est pour pas être, faut pas être sorti de Polytechnique, quand même. Bon. Alors, mais je vais vous donner un secret. Il y a des Bordelais ici? Né à Codéran? Grandi à Pessac? C'est moi. Bon. À Bordeaux? Moi, je vous parle de Bordeaux, il paraît que c'est vrai aussi avec le Bourgogne, mais enfin, là, j'en parle par oui-dire. Hein. Le Bordeaux, par exemple. Vous prenez un verre de Bordeaux, et les Bordelais qui sont là pourront vous le confirmer. Un verre de Bordeaux, même à moitié plein, n'est pas qu'à moitié plein. Car dans un verre de Bordeaux, dans la partie à moitié vide, il reste l'arôme. Absolument. D'ailleurs, tiens, j'y pense. Il y en a beaucoup parmi vous, je dirais, avant de faire un aile. Il y en a en entreprise, vous avez dû connaître ça. Vous savez la différence qu'il y a entre un optimiste, un pessimiste et un contrôleur de gestion ? Ça vous rappelle des souvenirs. S'il y a d'anciens contrôleurs de gestion ici, je m'en excuse par avance. L'optimiste, il vous dit, c'est formidable, le verre est à moitié plein. Il y a son copain pessimiste qui arrive, qui lui dit, bah, dis donc, mon pauvre ami, hein, t'es naïf, toi. Hein. Malheureusement, ton verre, il est à moitié vide. Et à ce moment-là, il y a le contrôleur de gestion qui arrive dans le bureau, qui dit, moi, je vais vous mettre d'accord, le verre est surtout deux fois trop grand. Ben, je vais vous dire, c'est le contrôleur de gestion qui a raison, hein, oui. Mais est-ce que ça fait avancer le jeu public ? Non. Moi, souvent, les gens me disent ça, mais oui, monsieur Gabillet, moi, je suis ni optimiste ni pessimiste. Moi, je suis réaliste. Excellent. C'est un super projet de vie, ça, être réaliste. Hein. Ouh, soyez réaliste, vous allez vous éclater dans la vie, je vous dis que ça, moi. Hein. Envisagez votre carrière en mode réaliste. Élevez vos gosses en mode réaliste. Mon petit, tu as 16 ans, ta mère et moi devons te parler. Nous venons de tomber par inadvertance sur une étude de l'OCDE sur l'évolution de l'emploi des jeunes à l'horizon 2040. Et il apparaît que la probabilité que tu puisses avoir demain un travail qui correspond à tes qualifications, à un salaire correct en contrat à durée indéterminée, cette probabilité est de 12% avant l'âge de 48 ans. Pas sûr qu'il faille faire ça. Mais même, attendez, entre nous, vous voyez, vous, vivre votre vie amoureuse en mode réaliste ? Franchement, on va faire un exercice, vous allez voir. Ce n'est qu'un exercice. Hein. Voilà, vous allez voir. Imaginez tout d'un coup, là, tous dans la salle, sans exception, vous êtes tous célibataires à nouveau. Non, madame, c'est une plaisanterie, ce que je dis. Une petite dame qui dit « Ah !» Non. C'est pour le test, madame. Bon. Et à ce moment-là, je vous dis, mesdames, messieurs, je connais tellement de monde, pour chacun d'entre vous dans cette salle, selon vos préférences, je vais vous présenter un homme, une femme, mais alors un réaliste du feu de Dieu. À mon avis, vous allez réfléchir deux secondes, vous allez dire « Non, je suis pas sûr que je vais entrer en matière, comme on dit. Hein. » Vous savez pourquoi ? Je suis en train de vous dire que je vais vous présenter quelqu'un qui, d'entrée de jeu, va vous voir tel que vous êtes. On est bien d'accord, ça n'intéresse personne. Ouais. Et voilà. Comme disait l'autre, quand mon ami est borgne, je le regarde de profil. Voilà. Ensuite, un optimiste. L'optimiste, il s'attend de préférence au meilleur. Mais attendez, ça ne veut pas dire que le meilleur est sûr et certain. Ça veut dire que quand j'ai autour de moi des gens qui comptent sur moi pour espérer, pour avancer, pour avoir envie de vivre mieux, mes gosses, mes clients, mes amis, mes potes, mes collaborateurs en entreprise, la posture optimiste, ce n'est pas une option, c'est quelque chose qu'on doit aux gens. Marie Curie, elle disait « il est poli d'être gay ». Elle vivrait aujourd'hui, elle dirait « il est poli et citoyen d'être optimiste ». Parce qu'on le doit aux autres. Ça ne veut pas dire que c'est sûr et certain. On va regarder le monde sous un angle qui nous donnera envie d'y aller. Même si parfois, voilà, ce n'est pas très raisonnable. Vous savez, Oscar Wilde, c'était un coquin Oscar Wilde, hein, il disait, vous savez, les pessimistes, leur problème, c'est qu'ils croient que toutes les femmes sont volages. Les optimistes, eux, ils espèrent bien que c'est vrai. Alors je vous rassure, mesdames, vous pouvez raconter l'histoire en inversant tout. Vous dites que c'est Amanda Lear qui a dit ça et ça passe aussi. Voilà. Tout ça pour vous dire, comme Kundera, je préfère vivre en optimiste, voyez, et me tromper, parce que ça arrive, plutôt que vivre en pessimiste pour la seule satisfaction d'être celui qui a eu raison. Et au bout du compte, dans le fond, ce qui compte, c'est ça, se dire, si j'agis, si je fais des choses, je pourrais peut-être faire changer le monde. Alors, c'est pas toujours sûr à 100%, mais rien n'est sûr à 100%. Quand on y réfléchit bien, peu importe. Mais l'optimiste est quelqu'un qui vous dira, faites confiance à l'action, faites confiance à la volonté, et vous serez toujours, à la fin, surpris par ce qui vous sera arrivé. D'ailleurs, je peux vous dire, j'ai un truc. Si quelqu'un, un jour, vous critique devant... Moi, je vais vous dire un truc. Si vous ne pensez pas que l'optimisme puisse dynamiser une entreprise, dynamiser un business, etc., eh bien, il n'y a pas de souci. Essayez avec le pessimisme et vous m'en direz des nouvelles. Quoi. Bon. Alors, vous me direz, mais on ne peut quand même pas tuer tous les pessimistes. Surtout pas, c'est super utile. Moi, je dis toujours aux gens, entourez-vous d'optimistes, mais aussi de pessimistes pour vous entraîner. Ah oui, il faut s'entraîner. Il faut toujours avoir un petit pessimiste à côté de soi quand même, un petit peu pour le booster. Il ne s'agit pas, dans le fond, vous voyez, de savoir si c'est l'un ou l'autre. Ça serait ridicule. Imaginez dans cette salle que vous ne soyez pas pessimiste du tout. Vous n'auriez jamais survécu, vous ne seriez pas là. Parce que c'est ce qui est, le fait qu'on soit un peu pessimiste, c'est ce qui permet de limiter son risque, prévoir un plan B. prévoir une option de sortie quand les choses vont mal, prendre ses précautions, s'assurer, assurer sa baraque, s'assurer sur la vie, etc. Ça ne veut pas dire qu'on est pessimiste. Ça veut dire qu'on a, de temps en temps, il y a certaines situations de la vie où c'est pas mal d'avoir la ceinture, les bretelles, le harnais, etc. Donc, pour vous donner une image, imaginez que chacun d'entre vous soit une espèce de beau château, vous voyez, de belle forteresse. Imaginez qu'il y a deux personnages qui vivent dans cette forteresse, votre optimiste intérieur et votre pessimiste intérieur. Le bon choix, dans le fond, c'est de confier la gestion, la direction de votre forteresse intérieure à l'optimiste qui vit en vous. C'est intéressant que ce soit l'optimiste le patron, parce qu'il va donner comme ça, vous voyez, une vision, une perspective. Mais il faut absolument respecter le petit serviteur pessimiste qui est là, parce que c'est le petit serviteur pessimiste qui, de temps en temps, vous dira « Fais attention, fais gaffe, sois prudent, est-ce que tu as pensé à, etc. » Il faut le respecter, ça. En revanche, si vous confiez votre maison intérieure à votre pessimiste intérieur, ça va être compliqué. Mais j'espère quand même que même si vous êtes comme ça, vous saurez de temps en temps être gentil et respecter votre petit optimiste intérieur, là, hein, qui de temps en temps vous dira, tu sais, la vie n'est pas si terrible que ça. Il y a des belles choses aussi, tu vois. Donc il ne faudra pas mal le traiter quand même, hein, c'est important. Et surtout, la chose la plus dangereuse, je vais vous dire, franchement, ce n'est pas du tout d'être pessimiste. Ce qui est dangereux dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est les gens qui tombent amoureux de leur pessimisme. Parce que ça, pour le coup, ça porte un nom, ça porte le cynisme. Et le cynisme, c'est vraiment se réjouir de la misère du monde. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas, qui est pas génial du tout, et qui surtout qui va détruire de l'énergie autour de nous. Si on ne veut pas de ça, il va falloir fonctionner différemment. Il y avait comme ça un vieux chinois, un vieux grand-père chinois qui parlait à son petit-fils, et qui lui dit, tu sais, tu as deux dragons qui habitent en toi. Un dragon optimiste, un dragon pessimiste. Et les deux se battent à l'intérieur de ton âme depuis toujours. Lorsque le dragon optimiste gagne, tu es en forme, tu es heureux, tu te sens bien, tu vois le monde avec plein de projets. Quand le dragon pessimiste gagne, tu te mets à douter. Tu vois le monde sous un angle sombre, tu désespères. Et les deux se battent en permanence. Alors, le petit garçon lui dit, mais les grands-pères, il n'y a pas moyen de me débarrasser du dragon pessimiste. On lui tend une embuscade et puis dès qu'il a le dos tourné, et le grand-père lui dit, non, c'est, les deux sont immortels. Enfin, du moins, ils vivront autant que toi, ils sont nés avec toi, ils grandiront avec toi. Et ils finiront avec toi. Alors le petit garçon dit, mais alors il n'y a rien à faire. Le grand-père dit, si. Réfléchis un peu quand même. Alors le gosse réfléchit, il dit, mais enfin attends grand-père, tu me dis donc, j'ai deux dragons qui vivent en moi, un optimiste et un pessimiste, mais lequel des deux est le plus fort? Ah, le grand-père lui dit, ça c'est assez facile comme question. Ils sont très exactement de force égale. Ah oui. Mais alors, quel est le plus rapide? Ah, le grand-père lui dit, ils sont... hélas, de rapidité et d'agilité absolument équivalentes. Alors le gosse continue à réfléchir, il dit, mais enfin grand-père, lequel des deux dans ce cas-là est le plus intelligent? Et le grand-père lui dit, eh oui, c'est ça le problème, ils sont aussi malins l'un que l'autre. Alors là quand même, le gosse, il a un moment de flottement, il dit, mais enfin écoute grand-père, je comprends pas. Si tu me dis qu'ils sont aussi forts l'un que l'autre, aussi rapides l'un que l'autre, aussi intelligents l'un que l'autre, mais dans ce cas, lequel des deux peut gagner? Et le grand-père lui dit, c'est très simple. À partir du moment où ils sont de force égale, de rapidité égale et d'intelligence égale, le seul qui a une chance de gagner, c'est celui que toi, tu vas décider d'apprivoiser et à qui tu viendras donner à manger tous les jours. Parce qu'effectivement, pour être optimiste, il faut aussi donner à manger à son optimisme tous les jours. Comment on peut faire ça? De façon très simple. Les optimistes sont des gens qui donnent à manger tous les jours à leur optimisme, d'abord parce que quand ils regardent le monde dans lequel ils vivent, ils essayent d'abord, voyez, de regarder les points forts. Nous tous ici dans cette salle, sans aucune exception, nous avons des points forts et des points faibles, des qualités et des défauts, des domaines où nous excellons, des domaines où nous ne sommes pas géniaux, des domaines où nous sommes nuls. La vie est ainsi faite. En revanche, voyez, il y a un principe. Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un et vous ne rencontrerez jamais quelqu'un qui ait réussi quoi que ce soit de formidable dans sa vie en prenant appui sur ses carences et sur ses faiblesses. Ça n'existe pas. Et l'un des choix les plus courageux à faire dans une vie humaine, c'est un moment ou un autre de dire que j'ai 20 ans, 30 ans, 40 ans, à partir de 50 ans, là, ça commence à urger. Si vous ne l'avez pas fait, il faut y penser quand même. Il faut vous réconcilier une bonne fois pour toutes avec vos points faibles. Parce que ces points faibles, comme disait Cocteau, vous devez les respecter, c'est vous. Alors après, on peut essayer de les neutraliser, surtout s'ils sont un peu embêtants pour l'environnement. Mais il faut arrêter de perdre du temps à essayer de transformer des faiblesses en points forts, parce que ça n'arrive quasiment jamais. En revanche, pensez à tous les gens que vous connaissez, vous, et que vous admirez. Dans le réseau, dans votre vie, chez vos amis, dans le monde des médias, les artistes, des écrivains, des personnalités, des gens que vous admirez qui vous bluffent. Si ces gens-là vous les admirez et ils vous bluffent, c'est parce que ces personnes-là, consciemment ou inconsciemment, ont monté en puissance leur point fort. De notre côté, ces mêmes gens extraordinaires, soyez rassurés, hein, ils sont bourrés de défauts, hein, mais on s'en fout. Voilà, ça c'est le point important à comprendre. Comprendre véritablement qu'on ne construit que sur de la force et que la faiblesse, à un moment donné, on va vivre avec. À la fois d'ailleurs les forces que vous avez déjà et les forces que vous n'avez pas encore. Vous imaginez tous ces domaines dans lesquels vous excellez et vous ne le savez pas encore parce que vous n'avez jamais essayé. Il y en a dans cette salle, si ça se trouve, ils sont doués en musique, ils ne savent pas. Hein. Ils croient peut-être même qu'ils sont nuls en musique parce qu'ils ont appris en fait le solfège dans une harmonie municipale, ils avaient 6 ans. Et depuis, ça s'est mal passé, hein. Ils se sont emmerdés. Ils ont dit, oh, la musique, c'est pas pour moi, c'est pas moi, je suis pas fait pour ça. Non, 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 vous n'étiez pas fait pour le solfège enseigné en province par des vieilles biques. Ça n'a rien à voir. Mais attendez, il faut contextualiser le truc quand même, vous voyez. Bon, c'est comme ceux d'entre vous aussi qui disaient, oh, moi, de toute façon, avoir ma propre activité, qui est peut-être il y a 15 ans, 20 ans, oh, bah, c'est pas du tout mon truc, tu me vois, moi, franchement, avoir un business et tout ça, puis quoi, ça m'irait comme des guêtres à un canard, ça va pas, non, bon. Et pourtant, si ça allait. Ça veut dire aussi, vous voyez, que les gens optimistes, ils ont compris un truc, c'est que si on veut se rendre malheureux dans la vie, il y a un truc qui marche à tous les coups, vous voyez. S'entêter à regarder en priorité tout ce qu'on ne peut pas changer dans le monde. Ça porte un nom d'ailleurs, hein, ça veut dire ruminer. Alors ça peut d'ailleurs ruminer sur le monde en général, passer des heures et des heures à se lamenter sur la mondialisation, sur le réchauffement climatique, sur l'injustice, sans rien faire. Moi, je comprends que quelqu'un, je dirais, mais quelqu'un qui me dit, ah, vous comprenez, le capitalisme, la mondialisation. Je dis, attendez, monsieur, madame, vous êtes engagé dans un mouvement politique pour lutter contre ça? Oui, non? Ah ben non, alors taisez-vous. On se tait, ou on agit, ou on se tait. C'est aussi regarder les leviers d'action chez les autres. Vous savez, il y en a beaucoup ici, je présume, ici, qui vivent en couple. Et pour cause, ici, il y en a un paquet quand même. Hein. Bon. Tous ceux qui sont là, qui vivent en couple, il y a un truc que vous savez tous depuis longtemps, même si vous n'osez pas le dire. Vous savez quel est le truc pour se pourrir la vie à deux, à tous les coups, hein. Je vous le donne, vous n'êtes pas concernés, mais c'est pour vos amis. Le truc pour se pourrir la vie à deux, ça tient en trois mots. Hein. Vouloir changer l'autre. Oui, oui, madame, c'était bien ça. Oui. Parce que, voyez, quand on vit à deux, mais c'est vrai avec ses amis, ses enfants, son conjoint, on peut changer notre relation. On peut changer l'atmosphère de notre relation. On peut changer nos règles du jeu. On peut changer le décor dans lequel on vit. On peut même changer nos projets. Mais changer le logiciel de l'autre, ça ne marche pas. Je veux pas que tu crois ce que tu crois. Ben, je m'excuse, mais voilà. Je veux pas que tu aies cette émotion-là. Ben, navré, mais c'est comme ça. Hein. Ben, regardez d'abord ce qu'on peut changer, à la fois d'ailleurs dans la relation avec l'autre, en nous, et à un moment donné, cesser de ruminer et de mettre son énergie sur des choses auxquelles on peut rien. Ensuite, troisième et avant-dernier point, penser solution, mais pas n'importe lesquelles. Voyez, l'histoire de l'humanité, dans le fond, c'est quoi ? L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire, en fait, de tout un tas de petites solutions, partielles, temporaires, qu'on n'a pas cessé de trouver à des problèmes de fond qu'on a toujours. Mais la caractéristique de l'évolution humaine, de nous-mêmes dans nos vies, c'est qu'en fait, tant qu'on est d'accord sur le fait qu'on est là, non pas pour trouver des solutions définitives aux problèmes, mais des solutions partielles et temporaires qui vont marcher un certain temps, là, comme par hasard, on est en énergie. J'ai quelque chose qui ne va pas, qui coince. Une solution partielle, temporaire. Ça marchera le temps que ça marchera, et pendant ce temps-là, on continue à vivre, on continue à avancer. En revanche, vous avez tout un tas de gens, ils sont passés à côté de leur vie, parce qu'ils ont cherché coûte que coûte, ils attendaient en permanence, vous savez, la solution parfaite, qu'elle ait tout réglé. Quand un homme ou une femme essaye de trouver la solution parfaite qui va tout régler dans sa vie, généralement, ça se passe pas bien. Et dans les pays, c'est pareil. Hein. Quand une société cherche à trouver une solution partielle, parfaite, pour tout, ça finit généralement très très mal. Et enfin, le dernier point, on reviendra à ce qu'on a dit au début, le vrai optimiste, dans le fond, il sait qu'il n'a jamais été demain matin. Il sait que les trucs les plus importants qui vous sont arrivés dans votre vie, quand ils vous sont arrivés, la plupart du temps, vous n'y attendez pas. Quoi. Que ce soit des points positifs, les pépites, ou les pépins. Ça va continuer. Hein. En revanche, l'optimiste vous dit, puisque je ne sais pas de quoi demain sera fait, et que par définition il y aura des pépites et du pépin, c'est peut-être plus simple pour moi de m'attendre en priorité aux pépites, parce que je serai davantage prêt à les saisir quand elles arriveront. Sachant bien évidemment que là aussi, il ne faudra jamais oublier la place de l'action. Vous voyez, et j'aurai bientôt terminé, mais je voulais vous dire deux choses. D'abord, moi je voulais vous donner, c'est la fin d'un poème de Suzanne Bissonnette, qui était une poétesse américaine, qui dit « Un optimiste, c'est l'incarnation humaine du printemps ». Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des gens, par exemple, parfois pendant l'été, surtout quand il fait chaud, vous voyez, ils vont vous dire « Cet été, là, il est trop été, trop chaud ». Ah oui. D'autres après, pendant l'automne, vous diront « Oh là là, l'automne, cette année, est trop automne. Oh là là, trop triste, trop humide. » Puis c'est les mêmes qui, pendant l'hiver, vous diront « L'hiver, cet hiver, trop hiver. Oh là là, on s'est caillé. » Mais vous remarquerez quand même que quasiment jamais personne vous a jamais dit « Le printemps, cette année, il est trop printemps. » Parce qu'on ne peut pas être trop printemps. On ne peut pas être trop dans la renaissance. On ne peut pas être trop dans la vie. On ne peut pas être trop dans le redémarrage. Voyez. Et quelqu'un qui fonctionne en mode printemps, c'est qui? Quelqu'un qui fonctionne en mode printemps, c'est quelqu'un qui, quand il va être en face de quelqu'un d'autre, va d'abord regarder où sont les forces. Va d'abord essayer de regarder là où il peut faire levier, là où il peut faire bouger les choses. C'est quelqu'un qui va raisonner en termes d'abord, avant de raisonner en termes de problèmes, raisonner d'abord en termes de solutions, même si elles sont que partielles et temporaires. Si vous fonctionnez comme ça au quotidien, mais avec vos enfants, vos amis, vos clients, etc., vous devenez quelqu'un de magique dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, parce que vous faites désormais partie de ce petit cercle des gens avec qui tout redevient possible quand on rentre en contact avec eux. Et ça, je dirais en soi, c'est déjà quand même une nouvelle qui est pas mal. Et je finirai, et je vous laisserai avec cette histoire, je vous laisserai la méditer. Il y a très 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 longtemps, vivait un jardinier optimiste. Ce jardinier optimiste, en fait, passait son temps à transformer des terrains vagues, des terres complètement arides, en jardins extraordinaires. Et un jour, il était très âgé, il débouche sur une étendue à perte de vue, qui était totalement désolée, rien que de la caillasse, de la poussière, pas âme qui vive, pas un insecte, pas un animal, rien, tout était mort, à perte de vue. On disait même, la légende disait même qu'au bout de cette étendue, le monde s'arrêtait et qu'on tombait dans l'infini. On croyait à l'époque que la terre était plate. Il va dans un village qui est juste à côté et il demande, il dit, mais est-ce que vous pourriez me dire à qui appartiennent ces champs? Et de suite, les paysans lui disent, oh là, ça n'appartient à personne, c'est maudit. Ce sont les champs de la mort. Personne n'a jamais cherché à faire quoi que ce soit avec ça. Ces champs sont totalement désertiques. Ils ont oublié des dieux, oublie tout de suite. Alors, le jardinier insiste quand même. Il dit, écoutez, c'est dommage parce que si ces champs avaient appartenu à quelqu'un, j'aurais bien aimé les acheter. Alors, les villageois réfléchissent entre eux et... Il dit, est-ce que tu as un écu sur toi? Oh, il dit, oui, un écu, ça, je dois toujours en avoir un. Il dit, mais écoute, dans ce cas-là, on te le vend pour un écu. Mais attention, on te le vend en pleine propriété, ne reviens jamais nous dire que tu n'as rien pu en faire, etc. Tu nous donnes cet écu, on n'en parle plus. Il donne l'écu et il prend possession des champs. Un an se passe, deux ans se passent, mais en fait, c'est comme pour NL International. C'est au bout de 10 ans qu'il s'est passé quelque chose. Et au bout de 10 ans, il s'est passé un truc incroyable, c'est que ce champ était devenu, à perte de vue, un jardin absolument somptueux, extraordinaire, plein de fleurs formidables, de plantes médicinales rares, de fruits extraordinaires, de légumes merveilleux, c'était formidable. Et donc, des milliers de lieues à la ronde, tout le monde parlait de ce miracle, de ce jardin extraordinaire. Et à l'époque, vivait dans la montagne un ermite, un saint homme, qui s'était retiré là depuis des années pour méditer. Et ce saint homme recevait régulièrement des pèlerins. Et depuis quelques semaines, ce saint homme est un peu étonné parce que beaucoup de pèlerins lui parlent d'un prétendu jardinier qui, dans la vallée, aurait récupéré à son compte les champs de la mort et les aurait transformés en jardins extraordinaires. Ce qui d'abord l'étonne énormément, mais surtout lui fait peur, parce que lui, en tant que saint homme, il sait pertinemment que ce n'était pas possible de transformer ces champs de la mort en jardins extraordinaires. Et si par hasard, ce jardinier les a transformés en jardins extraordinaires, il faut faire attention, il ne faudrait pas que ce jardinier croie que c'est arrivé, quoi, hein, finisse par se la péter et oublie, je dirais, à qui il doit tout ça, qui tombe dans le péché d'orgueil, si vous voulez. Donc, le saint homme décide de descendre dans la vallée pour discuter avec le jardinier. Il prend son bâton de pèlerin, il descend.
Le saint homme débarque, demande où habite le jardinier, on lui indique où il habite, ils seront auprès de lui. Le jardinier le reçoit très aimablement, lui sert le thé, bon, tout va bien. Et le saint homme commence par lui dire, écoute jardinier, je voudrais d'abord te féliciter. Oui, je voudrais te féliciter car ce que tu as réussi avec ces champs de la mort, c'est formidable. Moi, je me souviens de ces champs quand j'étais enfant, rien n'y poussait, c'était une terre oubliée des dieux. Tu as fait quelque chose de formidable et je t'en félicite, très sincèrement. Le jardinier est ravi, remercie le saint homme. Et à ce moment-là, le saint homme quand même rajoute, lui dit, écoute, faudrait quand même pas qu'il y ait de malentendu entre nous. Hein. C'est bien ce que tu as fait. Mais il faudrait quand même pas que tu oublies à qui tu dois d'avoir pu réussir tout ça. Et j'espère que tous les matins, quand tu pries, car je pense que tu n'oublies pas de prier tous les matins, tu n'oublies pas de remercier les dieux, tous ceux à qui tu dois d'avoir pu réussir ça. Et à ce moment-là, le jardinier a un petit sourire et lui dit, oh, vous savez, saint homme, vous pouvez me faire confiance. Hein. Oh, oui, vraiment. Tous les matins, quand je prie, je remercie les dieux pour le soleil qu'ils ont fait briller sur cette terre désolée. Tous les matins, je remercie les dieux pour la pluie qu'ils m'ont envoyée quand j'en avais besoin. Tous les matins, je remercie les dieux pour la puissance qu'ils ont mise dans la graine. Et tous les matins, sans exception, je remercie les dieux pour ce miracle sans cesse renouvelé que sont les quatre saisons. Cela dit, saint homme, vous auriez dû voir cette terre il y a 10 ans, quand les dieux étaient tout seuls pour s'en occuper. Voilà. Merci.